Voilà, bonjour à tous. On veut vous souhaiter la bienvenue. Alors que vous soyez sous votre couette encore, que vous soyez sur votre terrasse au soleil en train de prendre votre petit déjeuner, on veut vous souhaiter la bienvenue à l'EPI ce matin. On a vraiment à cœur de venir ensemble chercher le cœur de Dieu, se tenir dans sa présence. Je voudrais vous lire quelques versets du psaume 42 et versets 2 à 6 où l'auteur des psaumes nous dit « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Comme le psalmiste, on peut être nostalgique des moments où ensemble nous étions tous réunis dans ce lieu pour louer et adorer Jésus. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il ne se laisse pas aller à la nostalgie. Il ne laisse pas la nostalgie le conduire dans l'abattement. Mais il va se renouveler en Dieu, en se rappelant qu'il est celui qui l'a sauvé et qu'il n'est pas n'importe qu'il est le Dieu vivant. Notre Créateur est celui qui nous sauve et qui nous délivre. C'est lui que nous voulons célébrer ce matin. C'est Eric et toute son équipe qui vont nous conduire dans ce temps de louange, que nous puissions profiter de ce temps de louange et de cœur à cœur avec Dieu pour nous laisser renouveler en lui ce matin. Ayons soif de ce Dieu vivant, parce que là où nous sommes, là il est. Il est à nos côtés, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons ce matin nous présenter devant lui. Nous pouvons avoir libre accès à lui. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On laisse Eric et l'équipe.
Oui Seigneur, nous voulons t'exalter ce matin. Nous te présentons ce temps afin que tu te glorifies. Dispose-nous au devant de toi, Père éternel, dans ce temps de louange et adoration. Au nom de Jésus. Amen. Un chant se lève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir met le cœur soupir après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Car nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons. Toi, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre, car nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. ce matin, nous te souhaitons la bienvenue. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Car nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Car nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, Seigneur, tu es notre joie. Nous voulons te glorifier parce que tu es merveilleux.
Chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh.
glorifions. Gloire à toi, Père. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Oh, Christ est ma joie. Je le déclare ce matin. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Père. De toute éternité, ton nom, trois fois sanctifié, ta présence étant désirée, montre-moi la voie de ta sainteté. Tu es mon Dieu, le juste crucifié, celui qui a tout accompli. Merveilleux, majestueux, tout l'univers proclame ta gloire. Glorieux, Dieu prodigieux, il n'y a personne semblable à toi. Tu es merveilleux. Messager de la vérité, que ta grâce, ta vie me comble aujourd'hui. Ton sang versé, ton immense bonté, l'agneau sur l'autel sacrifié. Merveilleux, majestueux, tout l'univers proclame ta gloire. Prodigieux, il n'y a personne semblable à toi. Merveilleux, merveilleux, majestueux, tout l'univers proclame ta gloire. Glorieux, Dieu prodigieux, il n'y a personne semblable à toi. Victorieux, Ta gloire, glorieux, Dieu prodigieux, il n'y a personne semblable à toi, merveilleux, merveilleux, majestueux, tout l'univers proclame ta gloire, glorieux, Dieu prodigieux. Il n'y a personne semblable à toi. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout payé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Alors mon âme s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand tu es, ô Jésus, allez.
chantons Alléluia. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu. Majestueux Seigneur, nous t'adorons pour tous tes bienfaits dans nos vies, Jésus. Sois adoré, sois adoré. Tu es grand, Jésus. Exalté, Jésus.
Jésus, merci parce que malgré ton infinie grandeur, ton infinie puissance, tu es aussi infiniment patient, Seigneur, infiniment bon. Tu nous aimes, Seigneur, et tu as tout accompli pour nous. Tu as tout porté, tout est fait, Seigneur Jésus. Nous avons juste à nous approcher de toi, à te faire confiance, Seigneur, à nous confier en toi, en ta parole. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Et merci parce que jour après jour, tu nous montres ta bienveillance, ton infinie bonté envers nous, Seigneur.
Seigneur, c'est tellement extraordinaire de se dire que tu es le Dieu infini, tu es le Dieu de l'univers, et pourtant tu t'intéresses à nous, tu t'intéresses au moindre détail de nos vies, tu veux participer à nos vies. Seigneur, je te prie de nous aider à te connaître toujours mieux. Je te prie, Seigneur, pour tous les gens qui nous regardent. Tu vois, c'est pas facile, Seigneur, par écran interposé, de se joindre à une adoration, de rentrer dans la louange, mais je te prie que tous les gens en ce moment qui nous regardent puissent se joindre, entendre quelque chose de toi, même les gens qui n'ont pas l'habitude, même les gens peut-être qui se sont connectés par hasard. Seigneur Jésus, je t'en prie, viens toucher les cœurs, viens répandre ton amour, parce que tu aimes tout le monde d'un amour infini. Merci Seigneur, amen.
Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je viens.
Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu mon essentiel. chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Je chanterai Dieu, mon essentiel. On n'a besoin de rien d'autre, mes amis, que de Jésus dans notre vie. On peut être prêt à tout perdre, mais pas sa présence dans nos vies. Merci à toute l'équipe de Louanges pour nous avoir encore amenés à fixer ce matin nos regards sur Jésus. Quelques annonces avant de laisser la place à notre invité ce matin. Première annonce, c'est que l'équipe pastorale se tient à votre disposition par téléphone. Alors le numéro va s'afficher, mais je vais aussi le lire, donc au 06 28 13 58 51. 06 28 13 58 51 ou par mail sur contact@epi-strasbourg.eu. Pour nous soutenir, pour réentendre nos messages, pour prendre quelques infos, rendez-vous sur le site www.epi-strasbourg.eu. Alors, on ne peut toujours pas vous communiquer la date où nous pourrons de nouveau nous rassembler dans ce lieu, de vous communiquer la date de quand est-ce qu'on va pouvoir revenir dans nos locaux, puisqu'il y a plusieurs mesures draconiennes qui pour pouvoir vous accueillir dans des conditions de sécurité. Donc toutes les équipes sont au travail pour réfléchir et voir comment on va pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. Mais ça ne va pas nous empêcher de nous réunir et de prier ensemble. On vous donne rendez-vous pour un temps de jeûne et prière du 2 au 5 juin de 19h à 20h15 en direct sur Zoom. Les infos et le lien vous seront communiqués sur le site internet dès la semaine prochaine et encore dans les annonces qu'il y aura pour le culte prochain. Ensuite, on donne rendez-vous à toute la jeunesse samedi prochain. Samedi prochain, c'est le week-end de Pentecôte et il y a le rendez-vous CAP Online. Alors CAP, qu'est-ce que c'est? C'est le rassemblement de tous les groupes de jeunes de la grande région Est, de notre famille d'église, les Assemblées de Dieu. Donc on donne rendez-vous à tous nos jeunes. C'est une journée pour que nos jeunes soient encouragés, pour que nos jeunes soient impactés, boostés. Toutes les infos, vous les trouverez sur le site www.cap-est.online. Il est temps pour moi maintenant de vous présenter notre orateur du jour. Il s'agit de Philippe Châtre, qui est pasteur itinérant. Alors, vous le connaissez certainement parce qu'il vient souvent avec un de ses acolytes qui s'appelle Cookie. Donc, Philippe est ventriloque et il aime partager la bonne nouvelle de Jésus aux enfants. Mais il n'a pas que cet atout dans sa manche. C'est aussi un communicateur de l'évangile pour les jeunes et les moins jeunes. Et vraiment, ce matin, on veut lui laisser toute la place pour écouter, entendre ce que Dieu a mis sur son cœur pour nous encourager. Philippe, bienvenue à toi.
Merci infiniment Raymond Pierre, merci à toutes et à tous. Vous qui peut-être venez de nous rejoindre ou qui avez commencé depuis quelques instants, depuis quelques minutes, à louer le Seigneur avec notre équipe, je veux remercier l'église de l'EPI pour leur accueil, pour son accueil, le comité pastoral, Michel Schneider et toute son équipe. Et je dois vous avouer que je pense à vous vraiment avec mon épouse et notre église de Sarre-Union. Je sers à l'église de Sarre-Union et avant de commencer mon message, je ne peux pas m'empêcher de me joindre à la peine de tous ceux et de toutes celles qui vivent pendant cette période de Covid-19 les affres de la maladie et peut-être de la perte d'un être cher. Alors au nom de toute l'équipe de Sarre-Union, de mon épouse et de moi-même, nous voulons adresser à votre Église nos plus chaleureuses condoléances pour tous ceux et toutes celles qui ont perdu un être cher et notre plus chaleureux également soutien dans la prière. Nous prions ce matin et au-delà de ce matin et dans les jours à venir que le Seigneur vous console, vous fortifie, vous relève, vous fasse beaucoup de bien et surtout vous parle. Vous parle à vous qui avez certainement besoin d'entendre la voix de Jésus résonner dans vos cœurs et ceux de vos proches. Seigneur Jésus, je te remercie parce que lorsque tu fais entendre ta voix du sein de la tempête, c'est toujours une voix pour nous rassurer et nous défier. Alors je prie ce matin que tu nous rassures, mais que tu nous défies aussi au travers de ce message. Combien nous avons besoin, alors que toutes sortes de voix résonnent au sein de cette tempête que nous traversons dans notre pays et dans le monde entier, combien nous avons besoin de t'entendre nous parler. Merci Père pour ces moments particuliers, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Passons de la croyance à la foi » et je vais vous inviter tout de suite à me rejoindre dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 1 et au verset 3. Alors pour ceux qui sont habitués à ouvrir leur Bible, vous pouvez le faire ou tout simplement nous suivre sur les écrans. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3, je fais la lecture pour vous. « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À partir du verset 12 à présent, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. » À la distance d'un chemin de sabbat, et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Lorsque je suis confronté à ce texte, ce qui me saute aux yeux, bien sûr, et ce que nous prêchons souvent dans nos églises, c'est la manifestation du Saint-Esprit réalisée selon la promesse que Jésus va faire à ses disciples. Et quelle promesse ! Mais il y a une lecture différente que l'on peut faire eh bien, dans ce texte, avec une ou plusieurs questions que l'on peut se poser. Parce qu'il y a dans ce récit eh bien, quelque chose que je trouve de particulièrement étonnant. Les disciples ne semblent pas être sur la même longueur d'onde que Jésus. Ils semblent être préoccupés par tout autre chose que ce que le Seigneur est en train eh bien, de leur annoncer et de leur promettre. Écoutez-moi bien. Il semble que Jésus va leur parler du royaume de Dieu et leur révéler que ce que le Père avait promis allait s'accomplir, mais eux ramènent les choses à leur espérance messianique. Jésus leur parle des choses célestes et eux ramènent ses propos à leur espérance terrestre. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il semble eh bien que ce soit le centre de leurs préoccupations. Jésus leur annonce la façon dont les prochains événements vont arriver, mais eux, ils restent comme figés, focusés sur la façon, écoutez-moi bien, dont ils croient que les choses vont arriver, dont ils croient que les choses vont se passer. Et les questions qu'il est légitime de se poser, eh bien, ce matin, sont les suivantes. Comment se fait-il qu'ils ne comprennent manifestement pas grand-chose, si ce n'est quasiment rien ? À ce que le Seigneur est en train de leur révéler, est en train de leur promettre, après qu'il leur ait parlé du royaume de Dieu pendant au moins 3 ans et 40 jours. Comment est-il possible qu'ils ne saisissent pas qu'ils sont sur le bord de vivre quelque chose d'exceptionnel, que le temps est venu pour eux, celui de bouleverser le monde par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi ? Sont-ils incapables, manifestement, de comprendre le langage de Jésus ? Jean 8, 43 nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle, il va poser une question eh bien, à la foule, question à laquelle il va répondre, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» À cela, il répondra, « Eh bien, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous n'êtes pas capables d'entendre. » Alors, ce qu'il faut comprendre eh bien, dans ce que Jésus dit, c'est que les pharisiens, notamment les religieux de l'époque, ne peuvent comprendre les propos et les paroles de Jésus tant ils ont une vision radicalement opposée et différente du plan de Dieu quant à la façon dont le Messie devait intervenir et les sauver. Ils avaient eh bien, certains critères et certaines choses que le Messie devait respecter et il ne semble pas eh bien, que Jésus fasse partie de ces critères. Le peuple d'Israël, dans sa globalité, était dans l'attente du Messie conquérant, pas du Messie souffrant, du Messie conquérant qui allait chasser, eh bien, d'un point de vue politique et guerrier, même les Romains hors du pays pour ramener le peuple à l'obéissance de la loi. Et ce courant de pensée, parce qu'il y en avait beaucoup, eh bien, du temps de Jésus, était partagé par la majorité du peuple de l'époque. Et c'est pourquoi, écoutez-moi bien, parce que là, je reviens à nos disciples, je parle à nouveau de nos disciples, ceux qui les empêchaient d'être sur la même longueur d'onde que Jésus, d'entendre ses paroles et de comprendre son langage, celui du royaume de Dieu, n'était autre que la puissance de leurs idées préconçues. Je veux parler ce matin de la puissance de leurs croyances religieuses. Ce qui les empêchait d'entendre et de comprendre le langage de Jésus n'était autre que la puissance de leurs croyances religieuses. Écoutez, si l'on ramène les choses eh bien, à 2020 aujourd'hui, il est vrai que Ecclésiaste 1,9 eh bien, résonne de manière si particulière en ce qu'il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas, sous le soleil. Petite question pour vous qui nous écoutez. Comment se fait-il, pour vous qui avez l'habitude eh bien, d'entendre prêcher, pour vous qui connaissez Jésus, qui connaissez Dieu, pour vous qui avez une certaine pratique religieuse, voire plus spirituelle, eh bien, de la foi, comment se fait-il, vous qui êtes chrétien depuis peu ou de nombreuses années. Comment se fait-il, et je m'inclus à l'intérieur bien sûr de cette question, comment se fait-il que nous vivions parfois un décalage souvent assez important entre ce que nous croyons que Dieu va faire ou comment il va le faire et la façon dont il veut vraiment le faire. Comment se fait-il qu'il y ait un décalage parfois, voire même de la confusion, ne comprenant pas toujours le langage de Jésus pour nos vies et nos destinées? C'est une question intéressante à laquelle je voudrais apporter une réponse détaillée, étayée, voire la plus simple possible. La réponse que je voudrais développer pour vous ce matin est la suivante. Parce qu'à l'image de nos disciples, nous avons, nous aujourd'hui, en 2020, également besoin de passer de la croyance à la foi. Parce que malheureusement, je l'ai constaté pour ma propre vie, et tout au long de mes années de ministère, nous avons souvent tendance à confondre la croyance et la foi. Nous avons besoin, je crois, ce matin, de passer de nos certitudes erronées à la foi, de nos convictions infondées à la foi. Nous sommes parfois tellement ancrés dans nos croyances que nous ne marchons plus par la foi. Nous pensons marcher par la foi, mais nous sommes dirigés par ce que nous croyons au-delà de ce que nous pensons, par la foi. Écoutez bien, je voudrais vous proposer ce matin que la croyance n'a absolument rien à voir avec la foi. Or, à ce stade du message, vous seriez peut-être en droit de me demander, mais c'est quoi la différence? Parce que moi, je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois l'avoir accepté comme mon sauveur et aller au ciel un jour avec lui pour l'éternité. Ça, c'est une bonne croyance, mais je l'assimile à la foi. Je vais vous détailler maintenant ce que signifie une croyance, ce qu'est une croyance. Alors écoutez bien parce que il y a quelques phrases à retenir, mais je vais synthétiser mon explication par une phrase finale que je vais vous inviter à tenter de retenir. Qu'est-ce qu'une croyance? S'il nous faut passer de la croyance à la foi, c'est dans un sens général un processus mental forgé par le temps et dans le temps. Beaucoup de croyances sont fondées sur un système de pensée qui, s'imbriquant les unes dans les autres, tel un puzzle, détermine notre lecture de la vie et nos certitudes. Elles s'enracinent aussi loin que l'on s'en souvienne, au travers de notre éducation, de nos valeurs familiales, de tout ce qui nous a été transmis, de toutes les informations qui nous ont été communiquées, de notre culture, de nos expériences. Ces croyances dessinent et construisent notre carte du monde. Elles déterminent notre manière de voir les choses et organisent notre interprétation de la réalité et nous orientent dans nos prises de décision en fonction de ce qui nous semble vrai ou faux, bien ou mal, juste ou injuste, imaginaire ou réel. Et si je devais, comme je vous le soumettais, synthétiser ce qu'est une croyance, et je vais vous inviter à la noter ou à le retenir. Une croyance, c'est une certitude ou une conviction que l'on a érigée en vérité. C'est une certitude ou une conviction que l'on a érigée en vérité. Il y a plusieurs sortes de croyances autour de nous. Les croyances populaires, religieuses, scientifiques, ancestrales, familiales, celles liées à la superstition, il y en a tellement que ce matin je ne pourrais toutes vous les énumérer, mais quelques exemples. Saviez-vous qu'il y a un groupe de scientifiques sur Internet et plusieurs personnes les ont rejoints qui croient que la Terre est plate, encore aujourd'hui en 2020. Oui, la Terre est plate. D'autres croient que le génocide perpétré par les nazis n'a jamais existé. Quelle croyance absolument absurde. Négation de la réalité. D'autres personnes croient que Dieu n'existe pas. Vous en connaissez certainement autour de vous. Quelques personnes diraient, si Dieu existait, c'est une autre croyance, qu'il n'y aurait pas autant de malheur sur la terre. Vous avez certainement rencontré autour de vous également des gens qui vous ont dit que le diable n'existe pas. Ils y croient dur comme fer, alors que d'autres y croient. que l'enfer est une légende. D'autres personnes croient en la réincarnation. Tellement de croyances, tellement de divergences. Mais il y a aussi des croyances dans nos églises qui sont très très répandues. Le temps des miracles, de la prophétie et des langues ont cessé. Dieu ne parle plus qu'au travers de sa parole. Je crois que c'est une croyance et une certitude que l'on a érigée, eh bien, en vérité basée sur une mauvaise interprétation des Écritures, parce que Dieu parle encore aujourd'hui, et je prie qu'il le fasse dans votre salon ce matin. D'autres croyances sur les femmes, la fin des temps, et tellement, tellement, tellement d'autres choses. Mais ce qui me préoccupe le plus, au travers, eh bien, de ce que j'ai pu constater dans les églises, c'est qu'il y a des croyances qui nous limitent. On appelle ça, dans un langage plus thérapeutique et psychologique, les croyances limitantes. Il ne peut plus me pardonner après ce que j'ai fait. D'autres personnes, eh bien, qui vont peut-être se reconnaître ce matin, c'est peut-être de vous dont il s'agit. S'il m'arrive tout ce qu'il m'arrive, c'est parce que Dieu me punit. Certaines personnes dans nos églises croient que Dieu est la source de leurs maux et de leurs malheurs. Je suis trop nul. Combien de personnes seraient capables, eh bien, de le dire ce matin? C'est impossible, je n'y arriverai pas. On ne s'en sortira jamais. Dieu m'a laissé tomber. C'est lui qui est la source de mes épreuves. C'est lui qui les envoie. Aujourd'hui, on est capable d'entendre toutes sortes de choses qui parfois, eh bien, résonnent à mon cœur comme étant aberrantes. Théorie du complot, Dieu qui est celui qui châtie l'Église au travers, eh bien, de ce qui nous arrive avec cette épidémie. Toutes sortes de croyances dans nos églises qui ne suscitent pas la foi, mais nous amènent, eh bien, à la confusion et à la crainte. Peut-être que vous êtes en train de vous dire depuis des années, c'est impossible qu'il puisse aimer une personne comme moi. Je suis juste la brebis galeuse du troupeau. C'est une croyance qui s'est installée, qui s'est érigée en vérité dans vos pensées, telle une forteresse, et qui vous limite avec Dieu, avec les autres, et dans ce qu'il vous appelle à être et à devenir. C'était l'exemple de mon épouse, qui pendant de nombreuses années, assez dépressive, se disait, eh bien, qu'elle était la dernière roue du carrosse, la brebis galeuse du troupeau, et qu'elle n'avait droit qu'aux miettes qui tombent de la table du maître. Personnellement, je ne croyais pas, il y a longtemps de cela, avant que Dieu ne me restaure et ne me guérisse, que les gens pourraient m'aimer un jour et que je pourrais le servir avec passion, avec zèle, avec efficacité et avec onction. Bref, vous l'aurez compris, ce matin, autant de croyances, de certitudes, de convictions que l'on a érigées envers et contre tout, en vérité. Des croyances qui limitent Dieu dans la façon dont il veut et peut faire les choses et qui nous empêchent de vivre le miraculeux pour nos vies. Si vous vous êtes reconnu ce matin, ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voici ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31, dans la version Semeur. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur confiance, leur foi en lui, « Si vous vous attachez, écoutez bien, à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez réellement, vraiment mes disciples. Vous comprendrez ou connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Si vous vous attachez à ma parole, à ce que je vous ai annoncé. Aujourd'hui, on pourrait dire, si vous vous attachez à la parole écrite du temps de Jésus, à ce que je vous ai annoncé, mais si vous vous attachez ce matin à ce que vous entendez de la bouche de Dieu qui résonne en ces termes, vous allez le comprendre dans quelques instants, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, parce que Dieu parle encore aujourd'hui, alors vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Vous êtes appelés à la liberté et non à la captivité de vos pensées. Vous comprendrez, connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est là que cela devient intéressant. Parce qu'écoutez bien, si vos croyances limitantes vous ont enfermé dans une façon de penser erronée, destructrice, vous ont aveuglé et vous trompent aujourd'hui dans ces temps de crise et de tempête, particulièrement sur les intentions de Dieu, alors je veux vous annoncer que la foi, non pas la croyance, mais la foi en Jésus et en sa parole peut vous ouvrir les yeux sur ce que vous n'avez pas encore vu, pardon, ou compris. La foi en Jésus et en sa parole est capable de vous libérer de tous vos faux raisonnements. Parle-moi, Jésus, ce matin particulièrement parce que j'ai besoin que ta vérité m'affranchisse. Si votre croyance limitante vous sclérose et vous accable en ce moment, au point de vous faire faire du surplace et vous empêche de voir Dieu agir, alors je veux vous annoncer une bonne nouvelle. La foi en Jésus, si vous vous attachez à sa parole et si vous vivez conformément à ce qu'il va vous dire, on va en parler dans quelques instants, à ce qu'il vous a déjà dit ou à ce qu'il vous a prescrit dans sa parole, alors la foi en Jésus et en sa parole va être capable de vous procurer la joie et la paix dont vous avez absolument et nécessairement besoin ce matin pour traverser votre épreuve si douloureuse. Si votre croyance limitante, religieuse, ancestrale, familiale, superstitieuse ou populaire vous fait prendre des vessies pour des lanternes, si toutes les voix que vous entendez résonnent à vos cœurs comme étant des voix de peur, d'angoisse et de tourment, si ces voix vous mentent, vos croyances vous mentent, limitantes vous mentent et veulent tuer ou voler le rêve de Dieu pour votre vie, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous pouvez passer de la croyance à la foi parce que la foi en Jésus et en sa parole peut vous donner d'entrer dans ses plans parfaits, votre destinée, pour que vous vous empariez de tout ce qu'il a prévu pour vous, votre famille et votre Église. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est peut-être une parole pour vous ce matin. Ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est ce que lui pense de toi, de la situation, de qui tu es vraiment au regard de Dieu et de sa parole, et non pas au regard de tes croyances, de cette certitude que tu as érigée en vérité. Ce n'est pas ce que tu imagines, non, mais c'est ce que lui a prévu. Ce n'est pas ce que tu imagines, mais c'est ce que lui a prévu. Écoutez bien, parce que celle-ci, je la trouve vraiment, elle est de moi, je la trouve intéressante. Ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est ce que lui dit. Ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est ce que lui te dit. Alors vous seriez en droit de me demander, eh bien ce matin, pourquoi nécessairement passer de la croyance à la foi ? Je vais répondre à cette question de manière très précise, parce que la foi, notre foi, est basée sur la personne de Jésus, qui le seul soit mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier. Pourquoi nécessairement passer de la croyance, les identifier, pour passer de la croyance à la foi? Parce qu'il est le seul qui soit capable de vous encourager et de vous consoler dans les moments terribles que vous vivez. Il est le seul qui ait les paroles de la vie éternelle. Et moi, je rajoute des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles d'amour et d'affection. Pourquoi nécessairement passer de la croyance à la foi? Parce que, nous dit le psaume 119:60, le fondement de sa parole est la vérité. Je peux me fier à sa parole. Pourquoi passer nécessairement de la croyance à la foi? Parce que si la croyance est un processus mental qui se forge avec le temps, la foi, elle, est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi ne se base pas par rapport à ce que j'ai vécu de mon passé jusqu'à aujourd'hui et qui s'est érigé en vérité à cause des certitudes que l'on a plantées dans mon cœur. La foi se base sur ce que je ne connais pas, sur ce que je ne vois pas, mais que j'enfante par la foi. Ta foi, ce matin, est capable de donner vie à ce qui est mort aujourd'hui dans ton cœur. Ta foi, la foi en Jésus et en sa parole, est capable de te relever de tes cendres, de ton chagrin, de ta tristesse, comme personne ne pourra le faire. Aucune de tes croyances, si bonne soit-elle, ne sera capable de faire par la foi ce que Jésus va être capable de faire pour toi ce matin. Pourquoi nécessairement passer de la croyance à la foi? Parce qu'enfin la foi, selon Romains 10-17, vient de ce que l'on entend. Et je prie que ce matin, ce que vous entendez booste et augmente votre foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et là, ça devient encore plus intéressant car « parole » en grec signifie dans ce verset, comme dans beaucoup d'autres, « rhéma ». Et je voudrais m'intéresser quelques instants à la signification du mot « rhéma ». S'il est acquis, que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend vient du « rhéma » de Christ, de la parole de Christ, alors il serait intéressant de déterminer ensemble courtement ce qu'est un « rhéma ». Le « rhéma », c'est la parole parlée qui est couramment utilisée dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur communique sa parole dynamique et vivante à un croyant pour le convaincre ou faire naître quoi dans son cœur? La foi. C'est une parole fraîche, vivante, qui sort de la bouche de Dieu. On reçoit un rhéma, quand Dieu nous parle spécifiquement par rapport à une situation, je peux avoir lu un verset une vingtaine de fois et un matin, retombé dessus, dans une lecture quotidienne, le lire est là. Quelque chose se passe sous l'inspiration et l'onction du Saint-Esprit. Le verset prend une dimension 3D ou 4D et devient comme vivant. Et là, Dieu nous parle. Alors que ça n'avait pas trouvé d'écho les quelques semaines, mois ou années auparavant. Le rhéma peut résonner au travers de la lecture de la Bible. Le rhéma peut résonner dans un rêve, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le rhéma peut résonner au travers d'une prédication, d'une parole fraîche, d'un mot, d'une phrase qui va résonner à nos cœurs, à vos cœurs. Et je prie que ce soit le cas ce matin pour nous amener dans une dimension de foi afin de saisir le miraculeux pour nos vies. Je me souviens lorsque j'étais en recherche avec mon épouse d'une parole de Dieu pour l'école biblique. Nous hésitions entre la France, la Belgique et d'autres endroits, mais nous n'avions jamais pensé au Québec. Et alors que nous assistions, il y a quelques années, plus de 20 ans de cela, à une conférence avec le pasteur Claude Oud et le pasteur David Wilkerson, qui était notre orateur principal, je me souviens un soir, à la conférence plénière, le pasteur Claude prêche sur « Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai selon la parole que Dieu adressa à Abraham. » Je n'avais aucune connaissance ni conscience de ce qu'était le Québec. Mais à ce moment-là, c'était comme si le Seigneur ouvrait mon cœur et plantait un rhéma dedans. Une flèche vivante, une parole vivante, m'indiquant que c'était à coup sûr la direction qu'il nous fallait suivre. Alors sur sa parole, nous avons jeté le filet. Nous sommes sortis du bateau. Et nous sommes partis au Québec pour 3 années. Nous y sommes restés 9. Je voudrais saluer nos amis québécois qui peut-être nous regardent. Je veux juste vous dire qu'on vous aime tellement et qu'avec votre équipe, nous avons vécu les meilleures années de notre vie sur le rhéma de Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voudrais vous proposer ce matin, avant de terminer mon message, d'entamer la fin de mon message, que la foi qui renouvelle, la foi qui nous libère de nos faux raisonnements, qui nous fait passer de nos incertitudes à la certitude de Dieu, qui nous fait passer de nos croyances à la vérité. La foi qui éclaire, encourage, délivre, guérit, console, transforme, conduit et sauve, vient du Réma de Christ. Vient de la parole de Jésus que vous avez absolument besoin d'entendre aujourd'hui. J'ai une question à vous poser avant de conclure et de terminer. On a quelques personnes dans la salle, on est limité à 10, et ils me regardent attentivement, certainement comme vous. Comment vous me trouvez ? Ah, drôle de question, n'est-ce pas ? Et là, je vois un léger sourire. C'est ce qui s'est... Oula, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, je ne vous demande pas de me dire que je suis sympa avec mon physique et ma petite chemise bleue. Non, non, pas du tout. Je dis, comment vous me trouvez ? Convaincu ? N'est-ce pas ? Convaincant. Moi, je me trouve convaincant. Plein de foi, n'est-ce pas ? Oui, non, tu ne sais pas. Parce que tu n'oses pas, tu es gêné par la question. Je le fais exprès. Plein de foi, plein de fou, plein de... Oh, wow ! Et pourtant, si vous me connaissiez, vous sauriez qu'à bien des égards comme vous, je suis tellement faillible. Et qu'à un moment donné de ma vie, je me suis laissé piéger par les croyances plutôt que de marcher par la foi. On dirait pas, n'est-ce pas ? Je vais inviter... Eh bien, notre musicien a nous rejoindre pour la fin de mon message. Pourquoi est-ce que je vous ai posé cette question ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelques années de cela, entre 2012 et 2014, le Seigneur m'a parlé pour que j'entre dans l'immobilier et j'y ai passé environ 2 années. Ce furent 2 belles années, mais des années également de combat. Puis... En mars 2014, le Seigneur me parle de manière très très percutante et très personnelle pour que je réintègre le ministère et que je navigue encore eh bien, dans toute la francophonie, de Tahiti en Haïti, en Afrique, France, Suisse, Belgique, un petit peu partout pour encourager les églises et faire le spectacle avec Cookie. Et puis vers 2018, nous avons traversé une tempête financière et vous sauriez eh bien, que... Problème, pour moi, égale vraiment solution. Je n'attends parfois même pas que Dieu me parle, parce que je me dis, et je pense que je n'ai pas toujours raison là-dessus, je me dis que je suis capable de m'en sortir par moi-même quelque part, et que Dieu va m'accompagner. Donc ce que c'est fait, c'est que je suis retourné dans l'immobilier, parce que je croyais eh bien, que le scénario de 2012-2014 allait se reproduire à l'identique. J'étais dans mon bureau, triste jusqu'à la mort. Je me demandais à un moment donné eh bien, ce que je faisais dans cette agence. Et à un moment donné, alors que je n'avais pas demandé à Dieu son avis pour reprendre ce travail et pourvoir à nos besoins financiers pour moi et ma famille et moi, il y a comme... un texte et une voix qui résonnent à mon cœur. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Waouh ! Et là, je vais revenir à mon texte. Parce que ce qui caractérise les disciples, c'est qu'ils sont en train de s'éloigner de Jérusalem. Au moment où Jésus va leur parler, au moment où le réma de Jésus va résonner en leur cœur, il est manifeste que les disciples sont en train de s'éloigner de Jérusalem. Et on les comprend. Leur maître vient de se faire crucifier, il est ressuscité, ils ne saisissent pas tout. Il leur annonce les merveilles du royaume de Dieu, que des choses extraordinaires vont s'accomplir. Mais eux sont focussés, figés, semblent être préoccupés par la restauration du royaume d'Israël. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde de Jésus. Souvenez-vous du début eh bien, de mon message. Ils semblent être comme atteints par quelque chose qui les empêche d'entendre la voix de Jésus. Et ils sont en train de fuir Jérusalem, de fuir la persécution. Et ce n'est pas eh bien, ce que Jésus veut pour eux. Jésus veut qu'ils restent à Jérusalem. Pourquoi ? parce que c'est à Jérusalem qu'ils vont pouvoir être les témoins de quelque chose d'extraordinaire. S'ils s'éloignent de Jérusalem, ils vont rater le plan de Dieu pour leur vie. S'ils restent à Jérusalem en obéissance à ce que Jésus est en train de leur communiquer, alors ils vont vivre le miraculeux pour leur vie. Et on les retrouve quelques jours après dans la chambre haute. Non plus en se posant toutes sortes de questions, mais dans l'attente de ce que Dieu va faire pour eux. Ils ne savent pas quand cela va arriver, parce qu'ils vont être surpris à la Pentecôte par la puissance du Saint-Esprit, selon les termes et les propos de Jésus. Ils ne savent pas comment ça va arriver, mais ils savent maintenant, par la foi, que cela va arriver. Ils ne connaissent pas la date, mais ils savent que ça va venir. Ils ne savent pas comment, mais ils savent que Jésus va se manifester. Et on les voit passer de la croyance à la foi véritable dans l'attente, à la foi véritable qui les pousse à espérer, à la foi véritable qui les pousse à ne pas se poser 50 millions de questions, mais à attendre avec un cœur paisible et persévérant que la promesse s'accomplisse. J'aimerais vous poser une question ce matin. Quel est ton Jérusalem? Quel est ton Jérusalem? À l'image des disciples, tu es peut-être en train de réfléchir à l'idée de fuir, à l'idée de quitter, à l'idée de t'éloigner, parce que tu ne croyais pas que les choses allaient se passer ainsi. Tu t'étais fait comme les disciples, comme moi et comme tellement d'autres chrétiens sur la surface de la terre, un scénario différent, ne t'imaginant pas être frappé de plein fouet dans ta famille, être frappé de plein fouet dans ta santé, ne t'imaginant pas, alors que tu es un chrétien engagé depuis de nombreuses années, perdre ce que tu as perdu. Tu t'étais fait un scénario tout autre, familial, amoureux, ministériel, que sais-je. Et tout est en train de s'écrouler, de s'effondrer, comme tout s'est écroulé jadis du temps de nos disciples. Leur rêve, leur espoir, l'idée même qu'ils se faisaient de la restauration d'Israël. Quel est ton Jérusalem ce matin? Quelle est la situation qui te pousse à fuir? Tout crie en toi, quitte, va-t'en, fuis pour des jours meilleurs. Mais Jésus te dit, et c'est une parole de Dieu pour toi ce matin, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Il faut comprendre quelque chose dans ce genre de situation, les amis. C'est que nos disciples sont empêchés. Empêchés de croire, empêchés d'espérer, empêchés d'imaginer. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Écriture nous le révèle tout simplement en Luc chapitre 24, verset 13. Voici ce qui est écrit pour vous. Ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Or, la racine grecque du mot « empêcher » nous ramène à puissance. Il y avait une puissance qui les empêchait de sentir la présence de leur maître, de le reconnaître, cheminant avec eux. Dans toutes leurs incompréhensions, la puissance de la déception, la puissance de la douleur, la puissance de l'incompréhension qui te frappe peut-être également. Ce qui t'empêche d'entendre la voix de Jésus, ce qui t'empêche de voir ta foi augmenter, ce qui t'empêche d'espérer tout à nouveau, c'est peut-être cette puissance d'incompréhension. Pourquoi? C'est peut-être cette puissance de désolation, cette puissance de destruction. Cette puissance de doute qui ne te permet plus d'espérer contre toute espérance. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Parce qu'après que Jésus eut ouvert l'esprit de leurs disciples afin qu'ils comprennent les Écritures, tout est devenu clair. Je prie que tu ouvres nos cœurs et nos intelligences, notre esprit, pour que nous comprenions et que nous entendions ta voix. Non pas la voix du découragement, la voix du doute, la voix des catastrophes, la voix de « on ne s'en sortira jamais ». Toi qui as peut-être tout perdu dans tes finances, ton travail, ton époux, ton épouse, ton église. Mais la voix de Jésus qui résonne en termes de possibilité. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est peut-être ton couple. Alors que ce confinement a mis en exergue et en évidence tous les problèmes que vous tentiez de cacher, de camoufler et qui vous pète, pardon l'expression, comme à la face, c'est une expression québécoise et ne vous donne pas d'espérer. C'était pas le scénario que tu t'étais fait, comme les disciples. Tu es en train de te dire, je vais la quitter, je vais le quitter. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. J'ose dire ce matin, à moins que ton époux te batte, qu'il soit violent avec toi et que tu sois en danger dans ton intégrité de femme et pour la protection de tes enfants, ne t'éloigne pas de Jérusalem. J'ose dire à moins également qu'il ne te parle et que vraiment la voix et le réma de Jésus résonnent en ton cœur. Peut-être que ton Jérusalem, c'est tout simplement ta foi, ton église. C'est peut-être Jésus dont tu es déçu parce que tu ne t'attendais pas du tout à ce scénario, à ce que le Covid-19 nous frappe et te frappe comme il t'a frappé. Jésus te dit, ne t'éloigne pas de Jérusalem, ne t'éloigne pas de moi parce que je vais te restaurer, je vais te consoler, je vais te guérir. Et comme les disciples, te faire passer de la désillusion et de la déception à la joie, de la défaite à la victoire, de la tristesse à cette foi qui console, qui restaure et rassure. Peut-être que ton Jérusalem, c'est la situation qui te concerne et que je ne connais pas, mais que Jésus connaît. Le Seigneur te dit ce matin, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Et je termine avec cela. Parce qu'au sein de ton tourment, au sein de ta difficulté, au sein de ta douleur, au sein de ce que tu vis de plus dur, je vais faire de toi, comme il l'a dit à Abraham. Cela résonne dans le cœur de nos disciples et à nos cœurs aujourd'hui. Je vais faire de toi un témoin. Là, dans la situation présente, je vais me glorifier et me manifester à toi. Vous serez mes témoins à Jérusalem, là où Dieu t'a placé et là où Dieu voudra que tu sois un témoin. Ne t'éloigne pas de Jérusalem parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il est temps ce matin de passer de la croyance à la foi, de tes scénarios, de ce que tu croyais, de comment tu étais convaincu que les choses allaient se dérouler, à la foi qui est supposée aujourd'hui accepter le scénario de Dieu. Prions ensemble quelques instants. Seigneur Jésus, je te remercie de tout mon cœur pour ces moments que nous vivons. Seigneur, tu as permis au travers de l'église de l'Épi que nous soyons à la maison pour parler au cœur. Je prie que, Seigneur, si un réma a résonné, je prie que, Seigneur, les hommes et les femmes derrière leur écran le saisissent et s'appuient non pas sur la voix de leur croyance, mais la voix de la foi qui résonne aujourd'hui pour marcher librement, s'attachant à ta parole. Amène-les dans ta vérité. Pas leur vérité, mais ta vérité. Pas la vérité des médias, mais ta vérité. Pas la vérité du doute, mais ta vérité. Pas la vérité de la croyance, mais ta vérité. Au nom de Jésus, console, relève, restaure ceux et celles Seigneur, qui vivent dans ces temps difficiles, des moments de tristesse et qui ont envie de tout plaquer, de tout foutre en l'air et de fuir leur Jérusalem. Ne t'éloigne pas de Jérusalem, mais passe de la croyance à la foi et laisse le scénario de Dieu s'accomplir dans ta vie. Je prie que cela soit ainsi. Un grand oui et un grand amen ce matin pour nos amis. Alléluia. Peut-être que vous pleurez derrière votre écran et que vous êtes touché, pas par la parole d'un homme, mais parce que le Saint-Esprit vient sans limite et bien se poser comme sur vos cœurs pour vous dire « Espère contre toute espérance, ne lâche pas. Passe-toi aussi de la croyance à la foi qui espère, la foi qui attend. » Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne sais pas, comme les disciples, quand ça va arriver. Et je te promets, je te prophétise sur la parole de Jésus que ça va arriver. Tu ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer parce qu'il ne te laissera pas tomber. Tu ne seras pas connaissant de ni où ni quand tout de suite. Mais ce que je sais, c'est que si le réma de Jésus est ce que tu dois chercher ce matin, résonne dans ton cœur, alors rien ne pourra t'enlever la joie, la paix et la foi que cela va susciter dans ton cœur. Merci de bénir l'épi. Merci de bénir l'Église. Merci de bénir toute l'équipe pastorale. Et merci de bénir ceux et celles qui nous écoutent au travers de toutes les églises dans la francophonie, dans le nom de Jésus. Amen. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Soyez bénis.
J'ouvre mon cœur à jamais. Tu fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma... à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Nous avons les yeux fixés sur toi ce matin, Jésus.
Voilà, un grand merci à Philippe Châtre qui est venu nous encourager ce matin à faire confiance à Jésus, à faire confiance à Dieu et exercer notre foi, à sortir de tous les mensonges, de toutes les fausses croyances qui peuvent être là comme des prisons et à nous saisir et vivre la liberté que Christ nous a acquise. Alors un grand merci à Philippe ce matin, que nous puissions garder ce que nous avons reçu. Que nous puissions garder ce que nous avons reçu pour toute cette semaine. Et vraiment, vous souhaitez une bonne semaine et que Jésus vous garde. À très bientôt.